France Culture, il est 23h, les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir, nous avons rendez-vous avec les voix de ceux qu'on a appelés les Poilus de 1914. Ils sont plus de 160 à avoir été enregistrés entre 1974 et 2005 en français, mais aussi en patois, par un linguiste qui, de la préparation d'une thèse, a basculé vers un impérieux devoir de collecte. Des centaines d'heures enregistrées sur un magnétophone, aujourd'hui un peu cabossé, des cartons où voisinent bandes magnétiques et souvenirs d'un début de siècle tragique, et surtout la mémoire de Lucien Barou. Les voix sont altérées par l'âge et parfois par les gaz moutardes. Il s'agissait souvent de tuer ou mourir. Guerre de 1914, fragments magnétiques, par Marc-Antoine Granier et Lionel Quentin, création On Air.
La nuit, c'est souvent que je rêve que ça passe des tas de bonhommes, même des soldats, dans ma chambre, qui tournent comme ça, qui se promènent. Hein? Je dis ça. Mais je pense que c'est ça. Je connais pas. Je vois un tas d'hommes qui se promènent devant moi. Et il y a des moments que j'ai su. Une fois, j'avais tombé et je ne pouvais pas me relever. Et il y avait de l'infanterie qui passait devant moi. Et il n'y en avait aucun qui cherchait à me relever. Et je voyais bien, c'est des soldats et ils ne me relevaient pas. Pourquoi? Oui, je pense à ça. Un peu.
Donc c'est un enregistrement fait à Saint-Just-en-Chevalet, dans le bourg de Saint-Just, le 29 juin 87, donc en présence d'un ancien de la guerre de 14. Alors vous vous appelez, monsieur ?
François.
Vous êtes né ?
Ça s'est passé d'une manière curieuse. J'avais l'impression de tomber dans une sorte de caverne, tellement c'était noir chez lui. Et lui-même était un peu noir parce qu'il avait des rides avec, on pourrait dire, de la crasse enfoncée. Mais il avait un côté, au début, très agressif. Parce que, manifestement, c'est quelqu'un qui a souffert de l'humanité, qui ne s'est pas marié. Et puis après, au bout d'un quart d'heure, ça s'est bien passé. Surtout parce qu'il a vu que je connaissais le vocabulaire de la guerre de 14. Par exemple, les effets des gaz, qu'un obus à gaz, ça n'explose pas comme un obus normal, ça pète très peu. Et puis les effets sur les parties humides, les effets. Et donc, ça les amadouait en quelque sorte de voir que j'étais pas là, le premier journaliste venu. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de son affection par les gaz. Et qui après en a pâti parce qu'il pouvait pas faire tous les métiers, il manquait de force en quelque sorte.
maintenant. Alors, ce que je fais toujours au début, c'est présenter la date et l'endroit. Donc, c'est une enquête sur la guerre de 14, faite le 25 mai 1987 à Andrézieux.
Alors... C'est bien ça, c'est bien André Richard. Andrézieux, donc il faut dérouler tout ça. Il faut parfois la remonter comme ça. Oui. Il y a une inertie phénoménale maintenant, dans le ghetto.
Quand les Boches m'ont attaqué là, au Champagne, un seul coin là, les gars m'ont dit méfiez-vous, vous avez un seul coin. Ils disent vous verrez ben demain d'ailleurs, quand ça fera clair, vous verrez comme c'est fait. Le surlendemain, ils nous ont attaqué. Alors j'avais dit au gars, tu me sortiras les grenades sous le parapet là. Il n'a pas manqué. Mais moi, je les ai arrêtés, les Boches. J'étais devenu fou. La colère m'avait pris, je les ai engueulés. La nuit, en pleine nuit. Il devait dire, mais il est fou, celui-là. J'étais monté sur le parapet. J'avais laissé mon fusil à trancher. À coup de grenade, je les ai traités tout. C'est malheureux que je n'avais pas mon fusil à la main. Ça faisait noir. Bon, il y a la nuit. Hein. Il s'est penché, il a bien regardé où qu'on était. Il était à mettre de moi. C'est moi qui ai dit à ce moment-là, si j'avais pensé au coup, avoir le fusil, je le tuais raide. Alors j'avais les grenades, mais bon Dieu, que tout d'un coup, ils nous ont balancé une dizaine de grenades sur la tête. Hein. Bon Dieu, heureusement, quelqu'un m'en avait sorti une caisse. Ils n'ont pas perdu à l'échange. Hein. Non, mais j'étais un lion. Quand on m'attaquait, c'était un vrai lion. Alors j'avais pris un Boche, je n'étais pas prisonnier, hein. Je l'avais coupé en morceaux. J'avais pris mon couteau, j'allais tout couper. J'allais couper les oreilles, les yeux, tout. On est électricité, on est électrisé. On est fou, on n'est plus un homme normal.
Salanon et là André Richard, donc il devrait falloir tout dérouler, on va voir. Donc je m'appelle Lucien Barrault, je suis professeur agrégé de lettres modernes, je suis originaire des monts du Forêt, d'un tout petit village qui est même rameau, ce qui explique que je suis allé à l'école primaire jusqu'à 14 ans. Ensuite, en collège, Saint-Monnet-le-Château, puis ensuite, à l'école normale d'instituteurs de Saint-Étienne, d'où j'ai connu cette demoiselle qui est devenue ma femme. À l'époque, donc, il se trouvait que les meilleurs élèves de l'école normale d'instituteurs pouvaient préparer Normale Sup, ce que j'ai fait. Alors, je ne pouvais pas faire Normale Sup Ulm parce que je n'avais pas fait de latin. Donc j'ai préparé Normale Sup Saint-Cloud, où je suis après 2 ans de prépa à Montpellier, je suis rentré. Et il se trouve que je suis revenu assez vite, mentalement, à mes monts du Forêt d'origine, parce que j'ai fait un mémoire de maîtrise sur le patois de mon petit bled, et ensuite qui allait préparer une thèse de doctorat sur les patois de la Loire et périphérie. Et la thèse de doctorat m'a amené à prendre conscience, parce que elle portait sur des gens qui étaient essentiellement paysans et patoisans, de l'intérêt des témoignages sur la guerre de 14. Parce qu'on parlait d'une partie grammaticale, puis ensuite on parlait de n'importe quoi. Or, à l'époque, les maires à qui je m'étais adressé m'avaient sélectionné, en quelque sorte, 3 ou 4 bons patoisans de leur village, et la partie conversation qui terminait l'entretien, mais qui était longue, pouvait porter sur n'importe quoi.
Rappelez-vous,
oui.
Nous étions tout pour être simple, on y va. pendant la guerre de 14-18. Et je commandais une section des chasseurs alpins et nous dirigeons vers la nuit. On nous avait donné un itinéraire à suivre et nous nous sommes perdus.
Oui, c'est un magnétophone. UR4000, Report Monitor, que j'ai utilisé pendant 30 ans, que j'ai beaucoup aimé, qui tournait mieux à l'époque. Et il est tellement... Alors, je l'ai tellement utilisé que j'ai cassé une touche. Il a un œil tout à fait agréable. Je vérifiais toujours que le vu-mètre bouge. Et puis c'est quelque chose qui m'a permis un travail que je n'aurais jamais pu faire autrement. Ça permet de vraiment reconstituer la façon de dire et la façon de sentir, la façon de parler. Husson en forêt. On me signale un très bon témoin qui était d'ailleurs du Puy-de-Dôme, Sauve-Sange, très intéressant. Et puis la directrice me dit, mais j'ai aussi un autre poilu qui a fait la guerre, mais alors lui, je ne sais pas ce que vous pourrez en tirer si ça vous intéresse, parce qu'il a la maladie d'Alzheimer. J'ai dit, bon, on peut toujours essayer. Et c'est quelqu'un donc qui, effectivement, n'avait que très peu de souvenirs, mais avait les sons des obus en tête. Et qui imitait très bien les différents obus. Les obus sont extrêmement différents selon leur calibre. Ça va du petit 75 jusqu'au 380, même 420. Et là, c'était remarquable, parce que je me dis, dans ce cerveau qui est ravagé par Alzheimer, il reste des sons.
Oui, attendez. Si vous voulez, je vais vous demander d'abord, donc on est toujours à Husson dans la maison de retraite, et on est le 19 février 88. Vous, monsieur, vous appelez comment ?
Marius.
Marius. Et votre nom, c'est ?
Marius.
Oui, mais votre nom de famille ?
Gagnère.
Le canon de 75, vous l'aimiez bien, vous ? Vous aimiez bien le tirer, le canon de 75 ?
Eh, mais je ne me rappelle pas que j'allais le tirer.
Il faisait quel bruit, le canon de 75 ? Il faisait quel bruit, le canon de 75 ?
Le calibre ?
Le canon de 75, il faisait quel bruit ?
Oh, je disais un coup sec.
Un coup sec ?
Ah oui. J'appuyais sec, mais j'ai.
Ah oui.
J'en faisais pas beaucoup.
Oui.
Le dessin, vous savez, quand ça pisse.
Ça fait quel bruit, là ?
Et puis quand c'est que, comment j'appelle,
on m'a dit que... Et attendez, voilà. Donc c'est la suite, on est à Husson le 19 février 88, et là c'est la suite de l'enregistrement de monsieur. Vous êtes Marius Gagnère. Vous me disiez que vous aimiez bien le 220.
Hein ?
Le 220 aussi.
C'est que le 220, après, il est, c'est pas qu'il est long, mais c'est qu'il est comme ça.
Oui.
Quand ça pète, je vais.
Boum !
L'intérêt dans les... Alors quand il commence à plonger, on entend bien... Ça fait...
Et les artilleurs, parce que j'en ai vu d'autres artilleurs, m'ont dit qu'à l'oreille, au bruit, on les reconnaissait. Au bruit, on arrivait à dire ce que c'était, au bruit. Que ça faisait ?
On n'entendait pas bien l'oreille. Moi, je serais, je n'entends pas bien.
Oui, non, mais.
J'étais chargeur.
Oui.
Alors, quand le coupant, le tube était là, et moi j'étais là. À côté, le tube passait comme ça de moi.
Ah oui. Mais ça faisait pas mal aux oreilles.
Ah oui. Ça rendait sourd, ça n'allait rien pas bien.
Ah oui. Et vous pensez que ça vient de ça?
Oh oui, c'est ça. J'étais pas sourd. Hein.
Quelqu'un m'avait dit, tous les officiers français n'ont pas été tués par des balles allemandes. Donc ça voulait dire qu'ils avaient été tués par des balles françaises. Donc il m'est arrivé parfois de poser la question, et seul nom de Vougy, donc dans le Rouennais, me dit, ah là, tu dis bien. Je lui dis, mais ça vous est arrivé, oui. Il dit, mais oui, ça m'est arrivé dans mon régiment. Donc les officiers, ils les respectent s'ils sont courageux. Et s'ils ne montrent pas d'injustice. Alors là, un témoignage sur 187, un seul.
Non, on sent bien. Il y en avait qui se mettaient à la page de notre pauvre vie, bien sûr. Mais n'empêche qu'ils étaient obligés de commander, ils étaient obligés de marcher. Mais il y avait des charognes. Il y avait des charognes. Des gradés de carrière. Notre commandant, il avait les pas 4 sous, ce salaud-là. Et ben, il a vécu pendant toute la guerre, il lui est rien arrivé, mais rien veut dire. Mais on a eu des charognes. On descendait des lignes pour nous au rebout, et ce salopard-là, qui a été tué, il nous emmerdait jusqu'à la gauche au repos.
Il vous faisait faire des corvées?
Ben, il nous emmerdait, quoi. Sur tous les points, faire une chose ou l'autre. C'était ci, c'était cela. Et il y en avait marre de cette figure-là. Et qui n'était pas plus vaillant que les autres officiers, il ne valait pas mieux que les autres. Mais il y a un beau jour, et je crois même, je te répète ça, il n'y a pas d'importance, c'est un Parisien qui a fait ça. C'est un Parigot qui a fait ce coup. Il fallait qu'un bonhomme ait un culot qui savait qu'il avait le soutien de tout le monde, puisqu'il nous faisait chier jusqu'à la gauche. Alors, il est parti, on a fait comme ça. Et c'est des choses que j'ai vu faire, moi j'ai dit c'est pas possible. Il est tombé sur le bord de la tranchée. Il y a des sentiments de toutes parts. Il y en a qui l'ont couvert avec sa toile de tente. Mais il y a d'autres qui ont mis le pied sur la tête en passant. En passant, un coup de talon sur le nez. Moi, il fallait le faire. Et personne ne disait rien parce que c'était une charogne.
En 78, je soutiens la thèse qui était à Grenoble. Et en 80, je m'étais persuadé qu'il fallait effectivement essayer de continuer le travail, cette fois-ci en français, parce que le patois pose des problèmes de traduction. Et avec un seul interlocuteur, parce que j'avais vu plusieurs fois de bons interlocuteurs qui avaient fait une guerre très intéressante, je veux dire, qui avaient vécu dans des lieux où il y a eu des batailles terribles, et qui avaient été complètement écrasés par certains qui avaient la facilité de s'exprimer, mais qui n'avaient presque rien fait. Et donc, ça, je ne pouvais pas leur dire « taisez-vous, laissez parler monsieur ». Mais après, je voulais, pour éviter ça, j'ai donc choisi de faire des entretiens individuels en français. Je pensais bien qu'il y avait une façon un peu rurale de voir la guerre de 14, mais un paysan de l'Allier ne pense pas forcément comme un paysan de la Loire. Et notamment, une grande différence, c'est qu'un paysan de la Loire est pratiquement toujours propriétaire, et un paysan de l'Allier est rarement propriétaire, parce qu'il y a des très grands domaines, et ils sont métayers. Et que ça induit des visions de la guerre un peu différentes, c'est que l'officier, on le voit comme naturellement supérieur dans la Loire, qui en plus est très catholique, et on le voit comme une sorte de sous-patron ou de patron dans l'Allier. Et petit à petit, ça s'est développé. Il y a une sorte de, on pourrait dire, d'entraînement qui s'est fait. Et puis, il y a une accélération dans les années 85-89, où là, je me suis dit, mais ils sont en train de tous mourir. Et il y avait le journal qui nous alimentait en disant, ben voilà, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Donc, pendant 2 ans, ça a été un repérage systématique pendant toutes les vacances, à tel point que les années 87-88, j'en ai vu 65 et 70. Donc, c'est-à-dire que pratiquement les 3/5, même un peu plus, de mes poilus, je les ai vus dans ces 2 années-là.
Vous parlez de Berry-au-Bac et des mines. Et des mines. Eh bien, j'ai vu une mine qui a éclaté. Et on disait 3000 kilos de poudre qui avait sauté. Eh bien, j'ai vu un Allemand qui était monté à peut-être 15, 20, 30 mètres de haut et qui redescendait, un fusil à la main. Et puis, autre chose s'est passée, c'était la musée, tout. De l'autre main, les bras ouverts, il descendait à plein de là-haut. Eh bien, ça m'a fait mal au cœur. De voir ce type-là, je disais, tiens, tu vois le bonhomme qui descend de là-haut, il descend, il va se voir enlisé, mourir dans la terre mouvante. Alors je dis, c'est pas possible. Eh bien, rappelez-vous, ça a tremblé tout autour.
Et vous pensez qu'il n'avait pas été tué par l'explosion en montant ?
Oui, ça se peut, mais ça m'étonnerait bien, parce que il est monté avec la terre là, et tout ce que diable voudrait. Et il n'aurait pas tenu, s'il avait été tué, il n'aurait pas tenu quelque chose à sa main. Il est fort probable qu'il aurait bien lâché.
Et là, vous avez eu pitié de lui ?
Ah oui. C'est pas que j'ai eu pitié d'un Allemand, j'ai eu pitié d'un soldat qui se voyait mourir et sans pouvoir attendre de secours. Parce que ça pouvait très bien être un Français comme un Allemand. Mais il faisait la relève 6 heures du matin.
Et vous aviez quel sentiment vis-à-vis des Allemands?
Les Allemands étaient comme nous autres. C'était de bons soldats. Ils étaient peut-être un peu plus sauvages que nous autres, mais il ne fallait pas croire que les Français étaient des saints.
Au départ, il y a un intérêt historique, et après, tout de suite, il y a un intérêt humain, et petit à petit, l'intérêt humain l'emporte sur l'intérêt historique. Et même s'il y a des déceptions, même si on va voir des gens, on fait 150 km, et puis on tombe sur quelqu'un qui n'a aucune mémoire. Hein, ou alors qui transforme la réalité que je connaissais. Et donc, petit à petit, ils m'ont appris des choses qui m'ont permis de m'améliorer dans mon questionnement. Et puis, il y en a certains pour qui je suis vraiment très attaché, d'autres moins. Le fait qu'ils me paraissaient très sincères, qu'ils me paraissaient très humains, dans certains cas, et quand il n'était pas très humain parce qu'il voulait tuer du Bosch, c'était effectivement le fait de, de, de se livrer sans essayer de dire, vous voyez, j'étais un gentil. Non, j'étais pas un gentil, parce qu'à la guerre, on peut pas être un gentil. Donc, il y avait différents modes par lesquels on pouvait s'attacher à ces gens-là. Il y avait un Boche appuyé sur une pelle, là, comme ça. J'ai lancé la grenade juste à côté de lui et ça l'a tué. J'ai regretté toute ma vie. Je le regrette encore. Je regrette encore. C'était en 87. Donc c'était 70 ans après. Parce qu'après, voyez-vous, je l'ai regretté. Et puis je l'ai tué, je suis bien certain, puisqu'il est tombé. Il était à combien de vous? Oh, mettons à 10 mètres, même pas, à peine. J'ai lancé une grenade, pff, et après j'y ai regretté. J'ai dit, t'as peut-être tué un père de famille. Ah, voyez, j'y passe grosso modo, mais c'est des choses qu'on se rappelle. Et sur le coup, quand vous l'avez lancé, vous n'avez pas pensé que ça pouvait être un père de famille? Malheureusement que j'y ai pas pensé. J'y aurais pensé, je l'aurais pas lancé. Je l'aurais pas tué, non. Je l'aurais pas tué. J'ai regretté après. Je l'ai regretté une fois que je l'ai lancé. Il manque une feuille. Ah, d'accord.
Je m'en rappelle plus.
Bon. Prenez le temps d'allumer votre cigarette. Prenez le temps de l'allumer.
Oui, allez. Eh oui, c'est... Voilà. On en parle, mais on se souvient plus de.
Bien sûr.
Oui, ce qui est dur, ce qui est le plus dur, c'est les condamnés à mort.
Ah bon?
Oui.
Vous en avez vu?
Oui.
Ah bon?
Oui. Et 12 balles dans la peau, dans le cœur.
Et alors, comment ça s'est passé? Il y en a eu un dans votre régiment?
Oui, oui. Et l'envoyé à côté de lui, oui.
Et vous vous souvenez de son nom, ce gars-là?
Ah non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens plus.
Et vous ne saviez pas ce qu'il avait fait?
Ah, ça, c'est... Oh, on nous a expliqué, on nous a dit... D'abord, il faisait la morale. Mmh. Ça, il nous disait, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, faut faire... Faut marcher droit, faut marcher de l'aplomb, mais voilà. Mais celui-là, j'ai fusillé, oui. Et c'est pas une balle, c'est 12 balles qu'on le file dans le cœur. Poisson d'exécution, qui voulait m'en mettre. Il voulait me mettre des poissons d'exécution. Je lui ai dit tout ce que vous voudrez, mais pas ça. Je ne pourrais pas. Et si on ne tire pas, il faut visiter les fusils après.
Ah bon?
Eh! Faut pas. Le pauvre diable qui a été fusillé, là. Il est attaché au poteau, hein. Il attache.
Et vous étiez où? Vous étiez à côté?
Eh ben, on était. Toute la compagnie était développée, là. Sur de. Ça, et puis ça.
Vous faisiez un U autour du poteau?
Eh oui.
Et alors, comment ça s'est passé?
Eh ben...
Donc l'aumônier a fait les... On l'a amené d'abord.
Oui. Et... On l'attache. Après ce poteau. Il l'attache. Et puis alors, l'aumônier vient à côté de lui réciter les prières. Et puis alors, il y a le poteau d'exécution qui est à peu près à 20 mètres. Ils sont 12. Alors, il y a
un sergent qui les commande. Il leur dit, allez, garde à vous, présentez armes, en joue, feu, pan. Les 12 balles partent dans la direction du cœur. 12, pas une. Oui, 12 balles. Ça, j'ai vu faire. Alors, on peut le dire. Eh oui, quand on voit l'autre tomber par terre, pareil.
Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il attend en silence? Est-ce qu'il attend en silence, là?
Eh bien, oui, il est attaché.
Oui, mais il peut crier, je sais pas, il peut...
Oh, celui que j'ai vu, moi, tout ce qu'on a entendu de lui, il nous a dit, ne me manquez pas, tirez bien là. Il a bien fait voir où il fallait tirer. Et ne me manquez pas, voilà ce qu'il nous a dit. Mais là, alors j'en ai déchargé trois. Et après, j'ai arrêté les frais, je me suis mis à pleurer. Alors le capitaine s'amène, quand coûte pour faire l'état, qu'est-ce que tu pleures? Alors je me tourne, puis je regarde les capitaines, je dis, quel âge vous avez? 38 ans. Elle me dit, peu importe. Alors ben, je dis, écoutez, ça vous fait rien de voir si vous étiez là tout seul, et puis que votre femme et ses deux enfants soient là-bas? Alors il me dit, tu m'énerves. Et on reprend par le bras, il me dit, fous-moi la paix, je vais me faire pleurer aussi. Parce que c'est triste et d'une tristesse atroce.
J'avais vous. Creusé
aussi des tranchées. Ah, ben j'ai creusé des tranchées. Eh ben bien sûr.
Mais là donc.
J'ai creusé des tranchées, on risquait rien, ça ne nous tombait pas dessus. On, à un moment où on était là, on était assez loin du front. On était peut-être à 2 km, peut-être plus.
Il y avait une sorte d'insensibilité à la mort, mais quand on voyait ses amis.
Vous savez, c'est atroce. Moi je vous dis, c'est atroce de voir tous les copains morts. On ne sait plus quoi en penser, que quoi en dire.
Quand on s'est déshabillé, on avait tout ça à la main, quoi. On ne sait pas, c'était pas trop. Ah, la nourriture, elle était froide, tout le temps. Ah non, il n'y a pas de vente. Les gars apportaient des bouteillons comme ça au fond, en ligne. Et alors, des fois, ils avaient des 4 ou 5 la vente. Ouais.
On peut peut-être le mettre plus aigu. Il y a un bouton pour mettre plus aigu parce qu'il me semble que ça serait plus audible.
Il fallait enlever la terre du bouteillon dessus avant de pouvoir la manger. Enfin, ça. Qu'est-ce que c'est passé, ça.
Mais tu comprenais pas. Tu le faisais 30 fois. Et t'avais toujours pas compris. Et je disais, je l'appelais, je disais, écoute, viens, viens écouter. Viens. Il y a des moments, j'arrivais pas à comprendre. Surtout quand c'était ce que je t'expliquais, les noms de lieux. Et puis parfois même un mot ordinaire. À cause de ces voix. Qui était effacé, qui prononçait mal, qui avait du mal à parler. C'est un moment imprimé.
Alors, j'arrive à Berry-au-Bac, avec tous les copains, ma bon vieux. Où c'est qu'on vient? Où c'est qu'on va? On va à la mort.
On va à la mort.
On disait tous là. On était tous fixés. Parce que quand on a vu tous les types qui étaient morts, il y en avait, je ne sais pas combien, 150 à Berry-au-Bac. Le chemin des dames, c'était pareil.
La Malmaison, c'était pareil.
Ouh, je dis, mon Dieu, c'est bien la guerre. Vous arrivez sur le champ de bataille? Et oui,
on arrivait.
Il y avait un mois qu'on était en ligne. Un mois, peut-être deux mois, j'en sais rien, je me rappelle plus. Voilà, et puis, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, Je dis, ils n'avaient pas été enlevés, les cadavres.
Ah non, tout de suite. Non, puisque c'est nous qui les avons chargés pour les mettre dans le trou.
C'est nous qui les avons chargés pour les mettre dans le trou, dans la grande fosse
de 20 centimètres
de 20 mètres de diamètre.
Et puis pour
20 mètres,
c'est pas 20 centimètres, c'est 20 mètres de diamètre, la cour.
Qui l'avait creusé cette fosse?
Ben, les soldats.
Ben, tous les soldats qui avaient déjà qu'on avait déjà enterré, il y avait peut-être
les uns sur les autres les soldats.
Il y avait peut-être 40 dessous déjà de morts là-dedans qui étaient là. Les uns sur les autres, les soldats, je sais pas combien qu'on en a enterré là. Alors.
Et j'ai pas vu mettre les soldats qui étaient déjà dedans par terre, dans la fosse quoi. Parce que tous ceux qu'on a portés, on les jetait dedans, puis c'est tout.
Sans cérémonie,
sans. Pas le temps de faire des cérémonies. Les balles qui se tenaient, les mitrailleuses aussi, ils s'abattaient tout le temps. Et les obus aussi, alors. On n'avait pas le temps de faire tout ça. Il fallait quand même souvent se cacher, souvent se péter à plat ventre.
Mais on avait quand même le soin de les enterrer.
Ah ben dignement.
Plus dignement possible.
Ils étaient habillés, quoi. Ils avaient leur capote, ils ont tout le total, quoi. C'est tout, comme les autres. Des plus ouverts parce qu'il faisait pas chaud.
Donc là, vous avez fait un travail de fossoyeur.
Voilà, ouais, comme tout le monde, comme tous.
Et vous, combien pensez-vous que combien de soldats ont été enterrés dans ce coin-là, dans cette fosse?
On ne fait rien. Il y en a toujours
plusieurs dizaines, plus de 20
sûrement. Tant ou, j'en sais rien. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne les ai pas comptés, je ne pouvais pas les compter, moi. Ça m'avait tellement refroidi, j'ai dit, merde, tu étais là-dedans, t'es cuit.
Mais vous pouviez le faire quand même, vous preniez sur vous.
J'en ai fait trois, c'est tout. Après, j'ai plus voulu en sortir aucun de la voiture. Et mes camarades les ont fait. Voilà. Et c'est là que les capitaines ils me cherchaient, parce qu'ils me voyaient que je pleurais, et ils ne voyaient pas que je pleurais, et je ne voulais plus. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a donc qui va pas? Puis il me dit, on me regarde, il me dit, tu pleures, pourquoi tu pleures? Alors c'est de là que je lui ai dit ce que je vous ai dit, là.
Mais non, mais je vois pas bien. Pour l'Église et la patrie, avec sainte envie, nous donnerons notre vie dans la bataille sous la mitraille, gelant de froid, manquant de victuailles. Braves gens, après ce bon temps, Dieu des.
Quand je peux en tuer un, je ne mangeais pas. Mais un gars qui s'est rendu, je l'ai pas tué. Je ne tuais pas. Il disait, pour que tu te prends, sauve-toi. J'avais voulu qu'on m'en fasse autant.
Un corps, des mains, mes bras, mes jambes, mon ventre, mes pieds gelés, je les touche. Ils sont bleus.
C'est à ce moment.
C'est assez curieux, ces pressentiments. C'est curieux, je ne m'explique pas ça. Depuis que la guerre s'était déclarée, j'avais dans l'intention que j'y participerais. Eh bien, il partait en chantant et en disant, les parents pleuraient, bien sûr. Et il reconsolait les parents, on leur disait, mais pour les vendanges, on sera là. Il partait pour, le 1er août, un espoir, et pour les vendanges, on sera là.
Vous avez conservé ce souvenir du jour de la mobilisation?
Oh, ben, bien sûr que je l'ai conservé, bien sûr. Eh bien, nous étions en train de moissonner, n'est-ce pas, à Chassier, c'est-à-dire au-dessus de Saint-Anne, n'est-ce pas, dans un endroit qui domine les communes de la région. Et alors, on a entendu sonner le tocsin. On entend d'abord sonner, je ne me rappelle pas si Saint-Anne lui ou Saint-Anne premier, n'est-ce pas. On a cru qu'il y avait le feu à quelque part. Vous savez, la guerre est mijotée, on en parlait déjà, mais enfin, on pensait toujours qu'elle serait vite. Bon, un instant après, c'est la commune suivante. Après, on entend sonner en désordre. On a dit, ça y est. C'est
vous avez compris tout de suite.
Et chemin faisant, il y avait mon père, un ouvrier et moi. Nous étions trois. Chemin faisant, on rencontre un monsieur, un vieux garçon, qui venait de faire ses adieux aux filles de la Panchère, aux filles jutanées, n'est-ce pas? Alors, il nous annonce que, n'est-ce pas, qu'il partait le lendemain, qu'il venait se faire ses adieux, patati patala, n'est-ce pas. Puis, il avait un paquet de cigarettes, il offre une cigarette, mon père fait une cigarette, l'ouvrier fait ça, enfin, chacun fait une cigarette, et on cause un petit peu, c'est ça. Et au moment de se quitter, eh bien, il dit à l'ouvrier, Il dit, tiens, voilà mon paquet de cigarettes, j'en ai plus besoin, moi j'ai plus besoin de rien. Parce qu'il y avait tout de même quelques gens qui étaient, j'ai dit l'ambiance était forte, était patriotique, hein, patriotique c'est incroyable, mais il y avait tout de même quelques gens qui partaient avec une arrière-pensée, de ne pas revenir.
Un pressentiment.
Oui, un pressentiment. Et lui, c'était son cas. Et il dit, prends ça, c'est un souvenir de moi, parce que tu ne me reverras pas, je ne reviendrai pas. Il dit, adieu, allez-y. Excusez-moi, monsieur.
Non, mais je vous en prie, ces moments-là se produisent parfois, effectivement.
Voilà, et en effet, il n'est pas revenu, avec beaucoup d'autres, d'ailleurs. Appris à l'école, n'est-ce pas, on nous apprenait à l'école la défaite de 70 avec la perte de l'Alsace et Lorraine, tout ça. Au lycée, un livre qui s'appelait Le Tour de France, n'est-ce pas, qui nous marquait aussi, oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez connu, ce livre-là.
Je l'ai connu en réédition. Mais...
Oui, ça n'existe plus tout ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, on était élevé dans un esprit de revanche, quoi.
Les instituteurs élevaient dans l'esprit de la revanche. Ils disent, il y en a plusieurs qui disent, dont on avait constamment sous les yeux cette carte de France, avec en gris l'Alsace et la Lorraine. Puis on avait créé les bataillons scolaires, c'est-à-dire avec des petits fusils en bois, mais qui servaient à s'entraîner au rôle de soldat. On équipait les classes pour les garçons. Pour les filles, de fusils, et de temps en temps, on les réunissait à l'échelon du canton, et il y avait des exercices de marche, oui. Mais il est clair que tout a été fait pour préparer les gens à l'idée qu'il fallait reprendre l'Alsace et la Lorraine. Et oui, il y a un très fort ressentiment contre les Allemands à ce moment-là, la dette de guerre avait été énorme, qu'avait dû payer la France. Finalement, il n'y a que les prisonniers qui ont une image relativement positive des Allemands parce qu'ils ont été bien traités. Bon, deux ou trois n'ont pas été bien traités, mais ils n'étaient pas dans des fermes, ils étaient dans des mines. Et dans ce cas-là, on les traitait comme des ouvriers de troisième ordre, quoi. Mais dans les fermes, en général, ça se passait extrêmement bien.
Allô, présentation, donc Montbrison. On est le 19 février 88. Vous, monsieur, vous vous appelez comment ?
Marius.
Attendez, donc c'est une enquête. Je mets au début de chacune de mes bandes, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup d'enregistrements. Donc vous disiez...
Bien, nous sommes donc à Bellegarde-en-Forêt. Le lundi 8 juillet 1996.
Bien. Alors.
C'est une enquête faite à Margerie, dans le canton de Saint-Lancelin-les-Mieux, arrondissement de Montbrison dans la Loire. Donc on a madame.
Lionette Thérèse, fille de monsieur Jean Guillet.
Allô. Là, si ça passe là. Il faut voir, donc on est quel jour là, François ?
19 décembre 2005.
Voilà.
Et on est le jour de ton anniversaire.
Oui, c'est mon anniversaire, j'ai 59 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Juste les... Allô. Là, si ça passe là. Allez. Alors, on recommence. On est donc le 19 décembre 2005, à Brioude. L'adresse précise, c'est...
13 avenue Édouard Herriot. Voilà.
Là, j'ai le passage du son. Donc, à partir du moment où j'ai ça,
le Vumet, ça devrait passer. Ça devrait passer. Ah, mais on a dit que. Voilà. Donc, on est à Brioude le 19 décembre 2005. Oh, allô, allô. Oui, donc, on en est là. Donc, à cause de la soufflerie.
Oui.
Attends. Vous êtes donc monsieur de Cazenave.
Le ?
Vous êtes monsieur de Cazenave.
Oui.
Et votre prénom, c'est Louis.
Oui, oui.
Vous
oui.
êtes né en 80...
97.
Quel jour ?
De... Moi, 16 octobre. Ah, mon Dieu.
16 octobre.
16 octobre, moi.
97.
Oui.
Et vous êtes né où ?
Hein ?
Vous êtes né où ?
À Saint-Georges-d'Aurac.
Saint-Georges-d'Aurac.
Oui. Pas loin d'ici, vous voyez.
D'accord.
Oui.
Vos parents faisaient quoi ? Ils avaient quoi comme métier, vos parents ?
Ben, mon grand-père, il était receveur des postes à Brioude.
Ah oui.
Alors c'est pour ça qu'on est comme lui, là.
Mais sa femme.
Oui.
Ah oui. Saint-Étienne, nous sommes le 6 novembre 87, deuxième bande consacrée à la guerre de 14 de M. Charat.
Je suis comme tous les copains, on a marqué dans une écurie. On a marqué à l'emplacement. Et puis vers 2h du matin, et ben, qu'est-ce qu'on ouvre la porte ? Allez, debout là-dedans, on rentre ainsi. Debout là-dedans. Alors je dis, si tu as la gaffe, on va aller faire autant, nous sommes fatigués, nous avons besoin de dormir. Mais qu'est-ce qui me parle comme ça ? C'est Charat. C'est toi Charat ? Mais c'est vrai, on part demain. Tu restes le capitaine, va réunir les gradés.
On y est presque.
C'est ce monsieur-là,
c'est un bon exemple.
Qui était donc capitaine à la fin de la guerre, commandant dans les années 30, avec qui j'ai vu, on s'est vu au moins 15 fois, qui téléphonait pour dire « je voudrais bien rajouter quelque chose », et dont la femme m'a prévenu un soir en disant « mon mari est mort, il aimerait que vous le voyez ». C'est là que je l'ai vu dans son cercueil. En uniforme de capitaine des chasseurs.
Donc on est au rail, c'est la commune de La Tuilière, et je reviens vous voir un an après, monsieur Lafay. Je constate que vous allez toujours bien, mais cette fois-ci, vous êtes centenaire.
Oui.
L'année dernière, quand je vous ai vu, c'était seulement 99.
Oui.
Et vous aviez bien envie d'y arriver, et vous y êtes arrivé.
Eh bien, parce que... Je ne sais pas qui c'est qui m'en prolonge. Cependant, la route est dure pour y arriver.
Oui.
Elle est dure. Mais enfin, j'y ai arrivé. Oui.
Vous êtes né ici ?
Oui.
À La Tuilière ?
Oui.
Dans une famille de paysans ?
Là, quoi ?
Dans cette ferme ?
Dans une ferme.
Voilà.
C'est mon grand-père qui a construit avec son père, là.
Bien. Bien. Et alors donc...
Il avait 7 ans quand il est venu ici.
Oui.
Mon grand-père.
Votre grand-père.
Et mon arrière-grand-père a été même vieux.
Bien sûr. Est-ce que vous y avez pensé toute votre vie, la guerre de 14 ? Ou est-ce que vous l'avez oublié, parfois ?
Bah, ça va penser à... Ça va... J'ai pas été obligé de l'oublier.
Est-ce que vous y avez rêvé la nuit ?
Il y avait des mois.
Il y a des fois où vous y rêviez la nuit ?
Il y a des mois. Il y a des moments.
Qu'est-ce que vous avez eu comme plus grand bonheur dans votre vie ?
Mon grand bonheur, je suis revenu. Voilà.
On peut pas dire ce qu'on a souffert. Il faut y passer. Celui qui n'a pas passé là, il ne peut pas en parler. Moi, je dis carrément, il ne peut pas. Il faut y voir devant ses yeux qu'on voit la mort, oui ou non.
Guerre de 1914, fragment magnétique. Une création radiophonique de Marc-Antoine Granier. Avec Lucien et Françoise Barou. Composition sonore et musicale, Laurette Zitouni et Marc-Antoine Granier. Équipe de réalisation, Pierre Mine, Lionel Quentin. Équipe de coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Merci à l'Orsessin et aux archives départementales de Saint-Étienne.
Vous écoutez Création On Air. Demain, rendez-vous à 23h pour l'atelier de création radiophonique Sauvage de Paris par Rodolphe Alexis et Lionel Quentin. Belle soirée à l'écoute des émissions choisies par Philippe Garbi pour les nuits de France Culture.